À Bas-sur-Mer, près de Guérande, la société Tradicel commercialise environ 2500 tonnes de sel par an. Fabien Ozanne en est le responsable commercial. Il est également paludier depuis 3 ans et exploite 12 marais avec son épouse Elodie. En quoi consiste ce métier? Comment les marais sont-ils organisés? Comment le sel est-il récolté? Fabien revient en détail sur ces différents points dans cet épisode.
Bonjour Fabien.
Bonjour Alexis.
Ça va bien?
Ça va, et toi?
Ouais, nickel. Écoute, pour commencer, je te laisse te présenter si tu veux bien.
Très bien, donc je suis Fabien Ozanne, je suis responsable commercial de la société Tradicel et également paludier avec mon épouse Elodie Rio.
Est-ce que tu peux présenter rapidement la structure Tradicel?
Alors Tradicel, c'est une société à action simplifiée, une SAS, qui a été créée en 1999 et qui est une société de producteurs indépendants. Alors la société Tradicel commercialise environ 2500-2800 tonnes de sel par an. Et c'est une société donc qui est détenue uniquement par des paludiers. Et elle comporte 14 associés. Et parmi ces 14 associés, il y a 7 paludiers qui sont au comité de direction. Donc la société est dirigée par des paludiers. Et d'ailleurs, dans les effectifs, dans les 10 salariés en fait, de la société, il y a aussi des paludiers. Il y a environ 50 producteurs qui livrent le sel à Tradicel. C'est-à-dire qu'après, au-delà des 14 associés, il peut y avoir des paludiers qui sont multicanaux, qui vendent par eux-mêmes ou qui vendent dans d'autres structures.
On est tout près de Guérande, à Bas-sur-Mer.
Tout à fait.
Donc on est quand même au plein cœur des marais salants de Guérande. En préparant le sujet, j'ai vu que c'était un endroit qui était quand même pas mal chargé d'histoire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus pour bien situer l'endroit géographiquement et historiquement?
Là, on est sur la presqu'île, en fait, sur la presqu'île. Donc le marais est entre le continent et la presqu'île. Et Bas-sur-Mer est effectivement un village paludier. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a Saillé, il y a Clive, enfin, voilà, il y a des villages paludiers tout autour, mais Bas-sur-Mer a toujours été un haut lieu du sel.
Les marais s'étendent sur à peu près 2000 hectares, c'est ça?
Alors en gros, le site fait à peu près 50 km² et 2000 hectares, c'est la zone de la surface de production, me dirais-je.
Et aussi, j'avais vu que c'était un endroit très protégé.
Oui.
En termes de biodiversité et tout ça.
Tout à fait. C'est vrai que c'est... Alors, faut quand même préciser que c'est un espace artificiel. Hein. C'est la main de l'homme qui a fait les marais salants. Il n'aurait pas du tout ce paysage si l'homme n'était pas passé par là. Mais comme c'est une activité qui est très respectueuse de la nature, évidemment, il y a énormément d'espèces d'oiseaux, de végétaux et autres quoi, qui avec qui on cohabite. Hein. Et c'est un site remarquable pour cela aussi. C'est un site classé, c'est un site qui est Natura 2000. Il y a un plan de protection des espaces agricoles et naturels autour. Donc voilà, il y a énormément de... Enfin, c'est très, très contrôlé et c'est bien aussi parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Quoi. On est vraiment entre l'océan et le marais. Il y a très peu d'espace, donc il faut que ce soit vraiment bien organisé, bien structuré.
Ok, et il y a des paludiers qui sont ici depuis 1000 ans, quoi, c'est ça? Enfin,
mon épouse, c'est la 11e ou 12e génération de paludiers.
Ah ouais.
Et je pense qu'après, on s'est arrêté parce qu'on n'avait plus de traces. Mais effectivement, c'est des choses qui se transmettent beaucoup en famille. Bon, il y a aussi des jeunes qui viennent s'installer qui ne sont pas de la région. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très séculaire, très qui se transmet. Quoi.
D'accord. Et justement, comment on devient paludier? Quelle formation il faut faire? Est-ce que c'est plus de la... c'est transmis dans les familles au fil des générations?
Alors, y a plusieurs façons d'apprendre le métier. Il y a l'école du jeu, un peu, c'est-à-dire que, où on apprend avec son voisin ou son copain ou ses parents. Et après, il y a aussi une formation qui est dispensée à la Turballe. Donc, il y a plusieurs façons d'apprendre.
Ok. Et donc, le paludier a un statut d'agriculteur?
Alors, le sel n'est pas un produit agricole, mais le paludier est un agriculteur. C'est un statut un peu particulier. Oui. On travaille avec de l'eau de mer, c'est un produit minéral.
Oui.
Mais on est à la MSA, on est des paysans, quoi.
Qu'est-ce que fait un paludier concrètement? C'est quoi son emploi du temps? C'est quoi en quoi consiste son travail en fait?
Alors le paludier, il vit vraiment au rythme de la nature et puis au rythme des saisons et de la météo, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la météo qui va donner le là, quoi. On pourrait commencer la vie d'un paludier l'hiver, là, peut-être en janvier ou en février, quand il faut remettre les marais en état, quoi. Quand il faut les entretenir, ces marais, l'hiver, il s'inonde. Hein, on est sur un bassin argileux qui est étanche, donc forcément, on retient l'eau. C'est pour ça qu'on arrive à faire du sel, à stocker l'eau de mer l'été. Mais l'hiver, quand il pleut beaucoup, qu'il y a des tempêtes, et ben, le niveau monte et les marées sont noyées. Quoi. Okay. Donc l'idée, l'hiver, en fin d'hiver et avant la saison, c'est de les remettre en route quoi, pour la saison. Donc il faut refaire les ponts, il faut rayer les vasières, il y a des travaux de désherbage, enfin il y a des travaux d'entretien quoi. Donc ça c'est ça rythme tout ça jusqu'au printemps et après au printemps avec les premières belles journées on remet les marais en route. Donc il faut les décharger, et on peut recommencer à faire du sel. En général ça peut être en juin, les belles années on recommence au mois de mai. Voilà, mais le gros de la saison c'est vraiment juin, juillet, août quoi. C'est vraiment les trois gros mois. Après même bon là en septembre ça commence, on travaille plus qu'un jour sur deux. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup du temps. Quoi.
D'accord.
Il suffit qu'il y ait du vent et du soleil et qu'il fasse chaud, on produit, évidemment.
Tu parlais tout à l'heure des marais. Après, il y a plein de termes qui s'imbriquent marais. Il y a les salines, les vasières, etc.
Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est organisé un marais et comment le paludier va exploiter son marais pour produire le sel ?
Tout à fait. Alors là, on rentre vraiment dans la notion de terroir. C'est-à-dire que nous, il nous faut le sol, le climat et la main de l'homme. Le terrain, c'est un terrain argileux, donc qui est étanche, qui permet de retenir l'eau. Et on a aussi besoin de conditions topographiques, de conditions géologiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de ce qu'on appelle le trait, nous. C'est un shore, en fait, c'est un espace qui se remplit et qui se vide au gré des marées.
D'accord.
Et qui alimente, en fait, nos marées déjà dans une eau qui est déjà un petit peu plus chaude que celle de l'océan.
Okay.
Et cette eau, on va la stocker dans ce qu'on appelle des vasières. Des petits bassins qui sont un pied sous le niveau de la mer, qu'on peut remplir, on peut commencer déjà à stocker, à faire chauffer notre eau dans ces vasières. Et ensuite, ces vasières vont nous permettre d'alimenter nos marais. Et ensuite, on va faire circuler notre eau dans un gobelet, puis dans des phares, enfin dans différentes chicanes, dans lesquelles on va faire concentrer, en fait, on va faire chauffer l'eau, on va la faire concentrer en sel. Et on va l'amener jusque dans un bassin qui s'appelle la Derne. C'est le point d'orgue un peu de la cristallisation du sel, avant de les envoyer dans les œillets, dans lesquels, là, on va pouvoir avoir la cristallisation. Et dans ces marais, par la différence de température entre la vase et la température de l'eau, vu que l'eau est très concentrée, on est à plus de 200 grammes par litre de sel, l'eau est très concentrée en sel, on arrive à avoir, grâce au contact avec les micro-organismes et l'argile en fait, du marais, une cristallisation assez complexe qui va former donc, sur le fond de l'argile un cristaux de sel qui s'appelle le gros sel, le sel gris de Guérande, quoi.
Et justement, comment on le récolte, quels outils on utilise?
Alors, le gros sel, on le récolte avec un... Alors, il y en a qui disent las, d'autres qui disent la.
Okay.
Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est un grand manche en carbone qui fait à peu près 5 mètres avec une maille au bout. Alors, les gens qui ne connaissent pas appellent ça un râteau, on appelle ça un las.
Okay.
Et le las permet de faire rouler en fait, les grains de sel sur le fond de l'œillet et les rapprocher de la nature pour les sortir de l'eau, quoi. Pour la fleur de sel, c'est ce qu'on va appeler une lousse à fleurs. Donc voilà, en général, les débutants vont appeler ça une épuisette. Si vous voulez, c'est une lousse, ça permet vraiment de venir en surface de l'eau et de cueillir la fleur très délicatement en faisant flotter très légèrement l'outil sur la surface de l'eau et venir récupérer la fleur qui flotte.
Okay.
La fleur de sel, c'est une cristallisation de surface. Donc c'est ce qu'on appelait avant le sel blanc, qui se forme vraiment en surface de l'eau et qui vient être cueilli délicatement. Et ça se fait le soir, parce que la fleur se forme au fur et à mesure de la journée, enfin notamment l'après-midi.
Avec le vent, c'est ça ?
Voilà, avec le vent, et on ne peut la récolter que le soir. Et certaines journées, un jour il n'y a pas de vent, un jour c'est un peu humide, on n'a pas forcément de fleurs. C'est certains soirs d'été seulement. C'est pour ça que c'est un produit rare. Et c'était surtout récolté par les femmes ou les enfants, et c'était utilisé à la maison, ou alors ça a été beaucoup utilisé pour les conserves aussi, dans l'époque de la conserverie. Quoi. Mais dans les années 70-80, c'était perdu de mode, le sel blanc n'était plus cueilli, il n'était plus consommé. Et il n'était pas pris d'ailleurs, il y avait des paludiers, ils faisaient que le gros sel, ils coulaient leurs fleurs. Et la fleur de sel est revenue un peu avec l'ère de la gastronomie dans les années 90-2000, avec le retour, vous savez, des vins, de l'huile d'olive, du naturel. Et c'est vrai que c'est un produit qui est revenu à la mode, mais c'était pas un produit qui était nécessairement vendu. Voilà, c'est vrai que le gros du marché du sel de Guérande, c'était le gros sel gris, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, la fleur, ça ne représente que 5% du volume hein, de production.
Pour la récolte du gros sel, combien de temps ça prend en moyenne pour récolter un œillet?
On va dire qu'il faut une heure pour prendre 10 œillets à peu près. Alors après, ça dépend de s'ils sont pleins de sel, ça, il faut une heure et demie. Si le paludier est très rapide et qu'ils sont pas trop chargés, il va peut-être lui falloir une demi-heure ou trois quarts d'heure après. Ça dépend de voilà. Encore une fois, ça dépend du climat, ça dépend des marais aussi, et puis ça dépend du paludier.
Ouais, parce que c'est des gestes techniques, j'imagine.
Alors, c'est physique et technique, ouais.
Ouais. Et donc, la technique, ça serait quoi si tu devais expliquer les gestes
Alors, moi, je suis un néo-paludier, donc c'est ma troisième saison, donc je ne vais pas donner de cours. Je ne vais pas, moi, qui vais donner des cours à qui que ce soit.
Okay.
Mais en revanche, c'est vrai que j'ai vu entre ma première année et aujourd'hui, bah, je m'économise un peu mieux et il faut utiliser le poids du las, pas forcer, faire attention à son dos. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Puis après, plus on en fait, bah, plus on va vite et plus on est économe aussi.
Mmh. Et là, en arrivant, j'avais vu les œillets avec les tas de sel ramenés sur le côté.
Ouais.
Donc ça, c'est le travail des paludiers de ce matin, j'imagine.
Tout à fait, ouais.
Et donc ensuite, celle-là, il est déchargé, ou il est chargé plutôt dans une brouette, et puis il est emmené...
En fait, alors, on dit porter ses marais, c'est-à-dire parce qu'avant, c'était le travail des femmes, les pauvres.
Ah ouais.
Beaucoup, elles le mettaient sur leur tête, hein,
okay.
Et elles l'amenaient sur le tas, mais parce qu'on ne pouvait pas passer, il n'y avait pas de roue en caoutchouc, quoi. La roue était en bois, ça abîmait les ponts, donc c'était porté à la main.
Donc les ponts, c'est les endroits où on peut marcher entre les œillets,
c'est voilà, ça. Voilà, c'est des espèces de petits talus, ouais, qu'il y a entre les pièces de la saline.
Ok.
Donc on pouvait pas rouler avec une roue sur ces petits ponts là, on les aurait abîmés, donc ils étaient portés sur la tête. Aujourd'hui on a des brouettes, on a des roues en caoutchouc, donc mais on dit toujours porter. En fait,
d'accord.
On les roule quoi, en fait, hein, de la ladure jusque sur le trémet ou tormet. Encore une fois, il y a deux termes pour ça, où on stocke notre sel pendant la saison quoi.
C'est assez marrant quand je faisais les recherches pour préparer. J'ai vu qu'il y avait un jargon très spécifique dans le domaine du sel.
Tout à fait, ouais, ouais.
Ouais.
Alors, c'est un jargon qui prend ses origines dans le latin, dans le breton.
Ok.
Voilà, parce que le terme aderne, bah, ça vient de la mer Adriatique, c'est un héritage des Romains. Il y a d'autres mots qui viennent du breton. Enfin, c'est, pour les langues, c'est assez plastique, hein, mais c'est
ouais.
Toute une terminologie. Et puis après, voilà, qu'on soit à Guérande ou à Bas-sur-Mer, on ne va pas prononcer les choses de la même façon.
Ah,
aussi,
ouais.
Il y a des petites subtilités ultra locales.
D'accord. Et donc,
il y en a qui disent trémet, d'autres tormet, d'autres qui disent le las, d'autres le la. Voilà, bon, après, c'est chacun okay. Choisit sa paroisse.
Ouais, c'est rigolo, ouais.
Ouais, c'est rigolo, ouais.
Est-ce que tu peux expliquer l'histoire de la technique de récolte?
Alors oui, bah ici on fait du sel depuis l'Antiquité. Alors en fait, tout le pourtour atlantique, hein, on faisait du sel parce que bah, il n'y avait pas d'axe de transport. Les gens avaient besoin de sel pour conserver les aliments et puis pour se nourrir. Et il y avait des sites de production gaulois, surtout le pourtour atlantique. Et en fait, le sel était cristallisé par cuisson dans des petits fours à ogère, des petits fours en argile dans lesquels on mettait la saumure. Et on faisait chauffer et on faisait le sel comme ça. Et la technique du coup d'évaporation complète, elle vient des Romains quoi, elle vient de la mer Adriatique, de la Méditerranée. Et donc la technique par évaporation, ouais, ce serait 4e, 3e siècle de notre ère, et ça s'est surtout développé pendant le Moyen Âge. Et aujourd'hui, notre technique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle a environ 300 ans quoi. Voilà, elle a très peu évolué depuis 300 ou 400 ans quoi. À part le manche en carbone sur le las et l'utilitaire pour prendre dans les marais, les gestes, les surfaces, tout date de, ouais, d'il y a 300 ou 400 ans. Quoi.
Et une fois que la récolte est faite, c'est quoi les étapes qui suivent, du moins pour Tradicel? Donc toute la partie derrière, bah, commercialisation, conditionnement.
Oui, alors déjà quand le sel est sur le tormet, il est encore dans le marais, et donc il faut le ramener jusqu'à Tradicel. Et nous, on appelle ça le roulage. Enfin, on appelle ça le roulage, ouais. Et là, on roule le sel. Alors ça a toujours été roulé, hein, sur des charrettes. Alors, il y a des gabarres aussi, des bateaux qui allaient jusqu'au port du Croisic pour l'envoyer en Hollande ou en Angleterre.
Okay. Mais,
aujourd'hui, ça se fait avec des tracteurs.
Hein. Ouais.
Et donc, on a des tracteurs avec des bennes en inox qui viennent chercher le sel avec des pelles. Et on charge le sel dans les remorques et on les ramène à Tradicel. Donc, à Tradicel, tout le sel qui est vendu par Tradicel est stocké et conditionné à Tradicel, à Bas-sur-Mer. Le sel du millésime, fin de l'année, on le stocke et on va pas le vendre avant 2 ans. Parce qu'il est très humide, notre sel, il est plein d'eau. Et on le laisse sort un petit peu, donc on le stocke, ouais, sous des bâches et on le laisse s'égoutter en fait, pendant 2 ans. Avant de le... Là, en ce moment, on vend du sel de 2021.
D'accord.
On est obligé de passer par là, quoi, il serait beaucoup trop humide.
Ok. Et donc, quel type de sel est conditionné ici? Bon, t'en...
Alors nous, on fait du gros sel gris,
ouais,
et de la fleur de sel.
Ouais.
Donc ça, c'est nos deux produits de base. Hein. Et ensuite, à partir du gros sel gris, on fait des sels séchés. Donc, on fait du gros sel séché, on fait du sel moulu, et on fait du sel fin, et on fait aussi de la poudre de sel pour l'industrie. D'accord. Parce qu'on vend aussi notre sel à des fabricants de chips, de gâteaux, de caramel. Donc voilà. Et donc, on a des ateliers ici pour le séchage, le tamisage, le tri, le conditionnement des différents sels.
Et la différence entre un gros sel et un gros sel séché, ça va être quoi?
Bah on le fait passer dans une grosse pire à jaune chauffante.
Ouais.
Alors bien sûr, le sel de Guérande, c'est dans le cahier des charges, hein, on n'utilise aucun additif, on a juste le droit de le sécher et de le broyer, quoi. Donc le gros sel gris séché, on le chauffe et on le tamise. Et ensuite, ce sel, on peut aussi le broyer à différentes granulométries et faire soit du sel moulu, soit du sel fin. En fait, par tamisage, on va séparer la poudre aussi, voilà, pour selon les exigences des clients, quoi.
D'accord. Et justement, ça va être quoi les débouchés pour tous ces produits-là?
Alors, Tradicel, notre premier débouché, c'est la grande distribution. Hein, c'est presque la moitié de nos volumes, évidemment. Donc, en marque Tradicel ou en marque de distributeur aussi.
Oui.
Ensuite, on a une grosse clientèle en grossiste, cash and carry, circuit traditionnel. On a aussi de l'épicerie et on a aussi de l'export.
D'accord.
Donc, voilà, on a une clientèle assez diversifiée, quoi.
OK.
Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand même, le sel de Guérande est très, bon, c'est prisé, même. On en vend en Europe, on en vend en Asie, on en vend en Amérique, en Océanie.
C'est connu jusqu'à l'autre bout.
On a une quarantaine de pays, quand même. Aujourd'hui.
Ah ouais.
Donc, okay. Mais c'est quand même des petits volumes, quoi.
Mmh.
C'est vrai que notre gros marché, c'est la France, et notre premier distributeur, ce sont les grandes enseignes, quoi.
Et la différence entre le sel artisanal produit ici, et du sel industriel, entre guillemets, ça va être quoi? C'est au niveau de la transformation, au niveau de la...
Bah, si vous voulez, le sel artisanal qu'on produit dans l'Atlantique, c'est un sel qui est fait avec de l'eau de mer et qui est produit quotidiennement. Donc, il y a une richesse en oligo-éléments et en minéraux qui est extraordinaire. Mmh. C'est un sel qui est humide. Et donc, il est riche. Il y a du chlorure de sodium, mais il y en a moins que dans un sel de mine qui est très dur, qui est très pur. Si vous voulez, dans un sel de mine purifié, ça va être du chlorure de sodium à l'état pur, et complètement séché, quoi.
Ouais.
Avec parfois des produits de stabilisation. On entend parler de fluorocédure de sodium pour d'antiagglomérants, choses comme ça. Okay. Nous, notre sel, il n'y a aucun additif. Et c'est un sel qui est humide. Donc, il explose, il fond en bouche, et puis il apporte vraiment du magnésium, du manganèse.
C'est très riche en minéraux. Ouais.
Voilà. Puis après, on ne vend pas que du sel, on vend aussi la façon dont c'est fait, l'histoire, où c'est fait. Enfin, quand les gens achètent du sel de Guérande, ils achètent aussi la façon dont c'est fait, quoi.
Oui, l'héritage.
Voilà. Après. Peut-être qu'à l'aveugle, il ne ferait pas vraiment la différence entre un sel de Guérande et un sel lambda, mais il achète aussi l'histoire, quoi. Il achète l'artisanat, quoi.
Tu disais tout à l'heure que tu étais un néopaludier. On n'a pas précisé ce que tu faisais avant. Est-ce que tu veux revenir dessus?
Alors moi, je suis œnologue et j'ai exercé pendant plus de 20 ans dans le monde du vin. Donc, j'ai rencontré ma femme dans le monde du vin parce qu'elle y travaillait. Et donc, pendant le Covid, on a tous les deux décidé de démissionner de nos métiers dans le vin pour reprendre les marais de son papa qui prenait sa retraite et puis intégrer la société Tradicel.
Okay.
Donc moi, ça fait que 3 ans que je suis là, donc c'est pour ça que je ne me permets pas de donner de cours sur le métier de paludier. Je commence à voir un peu les contours, mais je suis encore en stage, on va dire.
Ouais, c'est ça. Il faut combien de temps pour faire un bon paludier?
Alors moi, on en fait que 12, parce qu'on est quand même très occupé aussi par le commerce.
Ouais.
Donc si j'en faisais 70, peut-être qu'en 2 ans, j'aurais été un peu plus vite dans l'apprentissage. Là, je pense qu'à partir de l'année prochaine, je serai quand même bien autonome. Donc je pense que raisonnablement, il faut quand même avoir fait au moins 3 saisons pour commencer à se débrouiller, ouais.
Est-ce que tu devrais faire autre chose maintenant que tu as goûté à ce métier-là?
Non, c'est vrai que moi, je m'épanouis beaucoup là-dedans. C'est très noble. Et puis, ça se rapproche en plus de ce qui me passionnait au départ, qui était le vin, quoi. Il y a cette notion de terroir, de produits naturels, de produits gastronomiques aussi. Donc, puis, c'est vrai qu'on a un environnement qui est fantastique, quoi.
C'est vrai que c'est beau, ouais. Merci beaucoup.
Merci à toi. On va aller visiter les marais maintenant.
Carrément. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois !